Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Vous savez, le Seigneur nous aime d'un amour extraordinaire. Et il veut beaucoup plus. Il veut beaucoup plus que toi encore que tu réussisses ta vie selon son cœur. Dieu n'est pas le Dieu de l'échec pour toi. Dieu n'est pas celui qui va prendre des choses de toi. Mais Dieu est un donneur et Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, c'est quelque chose que tu dois recevoir comme révélation dans ton cœur. Tu as reçu l'amour de Dieu en tant que révélation, en tant que Jésus comme sauveur. Mais le Seigneur a beaucoup plus que ça. Dieu nous aime d'un amour éternel. Un amour infini. Il nous aime et il veut bien plus que nous pouvons le penser. Que nous puissions pleinement être épanouis en lui. Amen, c'est important de comprendre ça. Et que ce soit vraiment une révélation dans votre cœur. De comprendre que cette relation que vous avez avec Dieu, c'est une relation qui doit s'approfondir à tel point que quand vous êtes dans la prière, la prière ne soit pas quelque chose de difficile et de sec, mais quand tu es dans sa présence, tu puisses vraiment voir clairement par la foi que Dieu a le meilleur pour toi, car le Seigneur a le meilleur pour toi. Dis à ton voisin, le Seigneur a le meilleur pour toi. Amen. Il a le meilleur pour toi. Dieu est le Dieu du meilleur. Dieu est le Dieu d'excellence. Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité. Dieu n'est pas le Dieu de l'échec. Dieu n'est pas le Dieu de l'avilissement, du rabaissement, de l'humiliation, où le monde voit l'humiliation comme si on a la tête écrasée. Ce n'est pas la mentalité de Dieu. Dieu veut pleinement que tu réussisses. Et ce matin, on va voir l'histoire d'un homme qui avait des chances de réussir. Et on va voir qu'il n'a pas su avoir une vision à long terme par la foi. On va parler d'un personnage biblique que vous connaissez tous. On va parler de Lot ce matin. On va parler de Lot. Et vous allez découvrir une chose. Vos décisions vont déterminer votre destinée. Il faut que vous compreniez que les décisions que vous allez prendre dans votre vie, ce sont ces décisions qui vont déterminer votre destinée. Votre destinée, c'est les plans que Dieu a pour vous. Tant que vous êtes sur cette terre, Dieu a des plans pour vous et il veut que vous puissiez entrer dans ces plans et réussir votre vie. Réussir votre vie, c'est que les plans de Dieu, votre destinée, si vous préférez, se réalisent. Et pour cela, vous avez une part à jouer. Vos décisions vont déterminer votre destinée. Et vos décisions, comme nous allons le voir avec l'histoire de Lot, entre autres, sont largement déterminées par votre foi. Parce qu'on va voir que les décisions, quand nous prenons des décisions divines, la foi joue un rôle important. Un rôle qui est même d'ailleurs fondamental. Et c'est pour ça obligatoirement que nous allons parler de la foi. Et d'abord, on va refaire une brève introduction sur la foi. Nous savons que la définition de la foi se trouve dans Hébreux chapitre 11, au verset 1, et nous connaissons bien cette définition, mais nous avons besoin de revenir sur cette définition. Hébreux 11, 1 nous dit « La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une autre traduction dit « La foi donne la substance, donne une garantie. » Que ce que nous avons espéré est finalement nôtre. Rappelez-vous que l'espérance est un souhait. Désirer réussir sa vie dans le Seigneur, c'est un bon désir. Désirer sortir de problèmes est une chose. Désirer construire une grande vision selon le Seigneur en est une autre. Beaucoup de gens ont des difficultés dans leur vie, prient pendant des années et ne voient pas le résultat de leur prière, entre autres, et se tournent en rond dans leur vie parce qu'ils n'ont pas une perspective de foi dans leur vie. Vous savez, vous pouvez essayer d'avoir la foi pour quelque chose de particulier pour sortir d'un problème, mais il va falloir que ta foi s'étende beaucoup plus loin. Si vous avez remarqué dans votre vie, les grandes décisions que vous prenez dans votre vie sont motivées d'abord par des petites décisions que vous avez déjà prises ou que vous voulez prendre. Observez votre vie. Par exemple, si vous vous mariez, si vous vous mariez dans le Seigneur ou vous mariez non, en n'étant pas dans le Seigneur, ça sera motivé par certaines décisions. Et la deuxième décision pourra être fatale pour votre destinée. Et ça, c'est courant. Ça peut être faire certaines choses dans notre vie, prendre des grandes orientations de notre vie.
Et
elles sont souvent motivées d'abord par des petites motivations. Voir certaines choses s'accomplir dans notre vie parce qu'on croit le Seigneur, parce qu'on croit sa parole, c'est bien. Mais il faut que vous ayez une perspective globale de foi. Espérer quelque chose, souhaiter quelque chose, c'est bien. Et vous interrogez n'importe quel être humain, n'importe quel être humain, même le plus désespéré, a des souhaits, a des désirs. Quelqu'un qui n'a pas à manger tous les jours, il dirait, oh, j'aimerais bien avoir vraiment quelque chose où je n'ai même plus à me soucier de savoir comment je vais trouver un peu d'argent pour manger. Quelqu'un qui est peut-être dans un environnement familial catastrophique dira, oh, mon souhait vraiment, c'est que cette histoire, ça se termine et que j'ai la paix. Et ça, ce sont des bons souhaits. Des souhaits légitimes pour l'être humain. Parce que personne n'aime souffrir en se disant, ah, la souffrance, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle en français des masochistes, c'est-à-dire des gens qui aiment souffrir pour le plaisir de souffrir. Non, personne aime souffrir pour souffrir. Vous savez, dans la vie, vous rencontrerez des circonstances qui vous feront souffrir et qui ne sont pas de votre faute. Par contre, vous pourrez aussi connaître des souffrances que vous avez vous-même provoquées. Et Lot était tout à fait de ce type-là. Dans Hébreux 11, vous verrez qu'il y a une succession de témoins. Des gens qui ont une perspective de foi. Qui ont vu Dieu agir d'une façon extraordinaire et qui ont terminé leur vie en ayant leur nom marqué dans ce chapitre. Et c'est marqué pour l'éternité. C'est souvent ce qu'on a appelé les héros de la foi de l'Ancien Testament. Et en fait, Dieu a pris ces gens-là, leur a donné une chance de réussir selon lui.
Et
ils avaient tous quelque chose en commun. Vous pouvez utiliser votre foi pour sortir de certaines choses ou pour obtenir certaines choses. Mais ça, c'est un certain niveau. Vous devez monter votre niveau de foi comme ces gens-là. Si vous voulez vraiment réussir toute votre vie. Voilà ce que la Bible va dire. Elle va parler d'Abraham, on reparlera d'Abraham. C'est pas, je ne veux pas décortiquer la vie de chacun ici. Mais par exemple, au verset 8, il est dit, de Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Verset 10, regardez bien ici. Ça, c'est l'attitude générale de foi. Comment ces gens-là dirigeaient leur vie par la foi au niveau des grandes lignes de leur vie. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Lis le verset 10, s'il te plaît. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Résident temporaire sur la terre. Verset 10, il était dit, il attendait la cité qui a de solides fondations dont Dieu seul est l'architecte et le constructeur. On peut prendre l'exemple de Moïse un peu plus loin. Verset 26. En parlant de Moïse, Moïse estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Dans le chapitre 11, vous aurez les plus grands héros de la foi de l'Ancien Testament. La parole de Dieu, donc l'Esprit de Dieu par les écrivains, rendent témoignage que leur vie a plu à Dieu. Et comment cette vie a plu à Dieu? Parce qu'ils avaient une vision sur l'éternité. Si tu n'as pas de vision vers l'éternité, ça veut dire que tu es quelqu'un qui va marcher jour après jour sur cette terre. Et tu ne réussiras pas pleinement ta destinée. Parce que ta consécration à Dieu sera limitée. Parce que ta vie chrétienne vraiment sera limité. Ça se limitera au jour le jour. Seigneur, tu vois, j'ai ce problème-là. Seigneur, je te prie pour ceci. Ça, c'est bien quand tu débutes dans la foi. Mais si tu veux réussir ta vie, il va falloir que tu aies la perspective de l'éternité. Il va falloir que tu saches que sur ton passeport céleste, il y a un visa pour l'instant temporaire pour la vie sur la terre. Et ça, il faut que tu regardes ton visa souvent. La date d'expiration, c'est le jour où tu quitteras cette terre. Et tes œuvres te suivront. Donc, entre-temps, tu auras eu intérêt à travailler pour celui qui est invisible et tu dois le voir. Ces gens-là ont été un témoignage pour Dieu parce que dans leur grande décision, on revient au problème des décisions. À chaque grande décision qu'ils prenaient dans leur vie, ces décisions étaient motivées par l'éternité et par la cité céleste. Par le fait qu'ils regardaient leur visa en se disant, ah, de toute façon, je suis étranger et voyageur sur cette terre. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre sous des tentes. Abraham venait d'un endroit. d'une ville rare à l'époque. Une ville construite rare à l'époque. Ville voulait dire une sécurité. Voulait dire un certain standing de vie. Même pour l'époque. Même s'ils n'avaient pas ni l'électricité, ni les télévisions, ni les téléphones portables, ni les voitures. Ni les avions. Ni l'électricité. À l'époque, il y avait quand même un certain confort dans ces villes de Mésopotamie. Elles étaient rares d'ailleurs. C'est ce que des archéologues ont retrouvé. Venons-en à Lot. Lot, c'était qui ? C'était le neveu d'Abraham. Regardons dans la Genèse. Son histoire commence au chapitre 12 avec Abraham. On parle de décision motivée par une foi qui a la perspective de l'éternité ce matin. Décision qui motive ta vie. Donc qui vont amener une direction dans ta vie. Direction qui vont amener les grandes lignes de ta vie. Donc amener à réussir ta vie dans le Seigneur. Ou en tout cas une grande partie de ta vie, puisque c'est une décision importante.
Hein.
Ou au contraire de louper une grande partie de ta vie. Et ça, c'est ton choix. C'est ta part à jouer. Dieu t'a donné le plan pour ta vie. Maintenant, c'est à toi de construire. Et pour construire, il faut que tu prennes un certain nombre de décisions. Lot, au chapitre 12, était avec Abraham quand Dieu va lui dire de sortir de la ville où il était. L'Éternel dit, chapitre 12, verset 1, Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit d'Haran. En fait, on voit ici que Dieu va mettre à côté de Lot, un homme qui a les promesses les plus incroyables de la terre. Lot va avoir le privilège d'avoir un oncle qui est prophète. Parce qu'Abraham était prophète, c'est ce que la Bible nous dit. Un homme qui va avoir la promesse la plus grande qui n'a jamais été faite à un homme. Sur Abraham reposait l'Israël terrestre et au travers de sa descendance, nous, l'Église. D'un bonhomme est née une grande nation, Israël. De cette grande nation est né Dieu le Fils qui s'incarne. Et qui crée quoi ? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Abraham était l'homme qui a reçu les plus grandes promesses. Lisez toute la Bible ici. C'est Abraham qui a reçu. D'ailleurs, Abraham, c'est vraiment le temps de la promesse. Et Lot est là. Qu'est-ce qu'il a fait pour être le neveu de celui qui reçoit la plus grande des promesses? Rien. Méfiez-vous d'une chose. Faites attention à qui Dieu met près de vous. Ne méprisez pas quand Dieu met des serviteurs de Dieu près de vous. Faites attention à cela. Dieu met à côté de nous des gens qui ont un impact dans notre vie, avec lesquels parfois on va avoir un contact très important, des fois un contact moins important, mais qui vont avoir un impact. Et ces hommes et ces femmes de Dieu sont des références pour nous. Moi, je sais que par exemple, dans ma vie, il y a plusieurs personnes qui ont été et qui sont encore aujourd'hui des références. C'est très important. Ces êtres humains ne sont pas parfaits. Mais Dieu nous les donne pour que nous ayons un standard. Que nous ayons des références dans notre vie spirituelle. Notre entourage est quelque chose de très important. J'en parlais jeudi. Faites attention qui vous fréquentez. Ne fréquentez pas des incrédules constamment. Oui, il y a des gens que nous devons fréquenter parce que nous avons un travail et dans ce travail, il y a des incrédules, d'accord. Tes relations familiales, tu ne les choisis pas. Tu es né dans une famille, c'est pas de ta faute, tu es là. Tes relations professionnelles, tu ne les choisis pas. Tu travailles, tu as un salaire et autour de toi, il y a des gens bien, il y a des incrédules. Mais tu dois te créer un entourage de gens qui marchent avec le Seigneur et qui sont de bons exemples pour toi. Fais attention à cela. Il y a des chrétiens qui n'arrêtent pas de fréquenter des gens qui ne marchent pas avec le Seigneur ou qui sont de purs incrédules, des gens qui ne marchent pas dans la foi, qui tuent la foi des autres. Des gens qui sont insensibles à l'Esprit de Dieu. Des gens qui sont fanatiques spirituellement. Ou des gens qui sont complètement religieux et qui vous apportent rien si ce n'est de la religion et ça, toujours ça vous tire vers le bas. Lot était un de ceux qui avait la grâce d'être à côté d'un homme de Dieu,
de
quelqu'un qui avait une vision, qui marchait avec le Seigneur, pas quelqu'un qui était parfait. Abraham a fait de sérieuses gaffes. Il a été le père de la nation des Arabes et ils sont toujours en train de se battre. Grave. Il a fait une gaffe sérieuse. Il a fait une gaffe, et ce n'était pas la seule. Un jour, il y a la famine, il est sous pression. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, tu sais ma femme, tu es belle comme une princesse. Si le pharaon te voit, connaissant les coutumes de l'Égypte, il va venir avec ses chameaux, il va mettre un grand drap sur toi, il va t'entourer et il va t'enlever. Et moi, je serai fini. Donc tu vas dire que t'es ma sœur. Ce sera un demi-mensonge. C'est vrai qu'il y avait une relation familiale entre sa femme et lui. Mais c'est comme un verre d'eau, vous savez. Il peut être à moitié rempli ou à moitié vide. Ça dépend de la personne qui va faire le commentaire. À moitié vide. Si tu regardes le côté négatif, tu dis c'est à moitié vide. Si tu regardes le côté positif, tu dis qu'il est à moitié plein. Ça dépend de ta mentalité. Et Abraham se met dans le compromis. Abraham était quelqu'un d'imparfait. Il a fait ses erreurs. Il y a un moment où Dieu va commencer à lui dire, tu sais, je vais venir vers toi, je vais venir vers ta femme. Vous allez avoir un enfant. Mais Seigneur, il a rigolé, Abraham. Sa femme a rigolé, mais lui aussi. Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Que ma grosse gaffe vive devant ta face, mon Seigneur. Je suis trop vieux maintenant, on va se foutre de moi, un vieillard qui a un petit enfant. Et regarde ma femme. Elle est fripée comme un vieux fruit qui a séché. Là, Abraham, sa foi, elle était. Il a fait des bêtises, Abraham. Mais il a grandi. Il a grandi. Et il a vu les promesses s'accomplir. Pourtant, c'est un homme dont il est rendu témoignage dans toute la Bible. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils disent pas Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Ils disent Dieu d'Abraham. Partout. partout dans l'Ancien Testament, on parle d'Abraham. Jésus rend témoignage à Abraham. Le Nouveau Testament rend témoignage à Abraham. Dans Hébreux 11, il est rendu témoignage à Abraham. Paul rend témoignage à Abraham. Tout le monde rend témoignage à Abraham. Et pourtant, Abraham n'est peut-être pas quelqu'un de parfait. Mais c'est quelqu'un qui avait la perspective de l'éternité. Il a eu ses chutes. Il a fait ses péchés. Il a fait ses erreurs. Mais il avait la perspective de l'éternité. Et il a vu la gloire de Dieu intervenir dans sa vie. Lot avait à côté de lui un homme qui marchait avec Dieu. Un homme qui voulait écouter Dieu. Et un homme qui avait une bénédiction. Une bénédiction exceptionnelle. Et vous savez, quand vous êtes proche de gens qui sont bénis, il y a toujours des choses qui tombent sur vous. S'il est béni énormément, il y a une grosse pluie qui va venir aussi sur toi. Et si elle ne vient pas sur toi, le fait que la pluie tombe très fortement par terre, tu seras éclaboussé. Vous avez remarqué ça? Hein, quand la pluie tombe très fortement, même si tu es protégé par un petit toit, s'il y a vraiment beaucoup de pluie, obligatoirement, ça va rebondir. Et tu vas être mouillé quelque part. C'est la même chose pour être dans l'entourage de quelqu'un qui est super béni. Donc la première chose que Lot avait, c'était le meilleur. Il était placé à côté de l'homme sur qui Dieu s'était focalisé. Dieu veut un peuple. Abraham est choisi. Grâce immense. Lot est juste à côté de lui. Au chapitre 13, Abraham sort d'Égypte après sa gaffe. Il a failli perdre sa femme, se la faire voler par le roi d'Égypte. C'était une coutume à l'époque. En Égypte, si vous passiez dans le territoire d'Égypte à l'époque, la coutume c'était simple. Il suffisait qu'il y ait une femme qui plaise à monsieur le pharaon. On prenait la femme et on éliminait le reste. C'était courant. C'est une coutume d'ailleurs dont on a retrouvé des écrits. Au chapitre 13, Abraham remonte d'Égypte vers le Négev. Ah oui, on aurait pu parler de quelque chose d'intéressant aussi. Mais bon, on en parlera plus tard, c'est pas grave. Abraham remonta d'Égypte vers le Négev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négev jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel, donc il va adorer Dieu. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Pourquoi est-ce que Lot était béni à votre avis? Vous êtes posé cette question? Pourquoi est-ce que Lot était béni ici? Lot était béni, il faut le dire. Lot était béni pourquoi? C'était la conséquence de sa proximité avec l'homme de Dieu. C'était la proximité de l'homme de Dieu. C'est pour ça que Lot était béni. Il n'est pas dit que Lot était en train d'adorer Dieu. Lot, il faisait quoi? Il suivait celui qui était béni. Marche, Abraham. Ah, vas-y. Abraham, marche. Vous savez, des fois, ce n'est pas compliqué d'être béni. Il vous suffit d'être proche de quelqu'un qui est très béni. Marche, Abraham. Tout ce que tu laisseras tomber, je ramasserai. Et Abraham, il était là, tellement, il n'en pouvait plus. Là. Imaginez-vous, sur un territoire, il est dit qu'avec ces deux hommes, il n'y avait même plus de place à perte de vue. Pour leur cheptel. Remarquez ici, la Bible ne dit pas au verset 2, Abraham était riche en cheptel.
Et
rajoute un qualificatif. Vous l'avez déjà remarqué, c'est bien. La Bible nous dit qu'Abraham était
riche.
Il n'était pas riche, il était.
Il n'était
pas dans l'abondance, il était dans la surabondance. Il n'était pas à moitié vide, il était archi plein. Ça débordait de partout. Une bonne mesure secouée qui déborde de partout. Abraham était dans ce domaine-là, dans cette dimension-là. Il était ultra, ultra béni. Pourtant, il n'avait pas trouvé de champ de pétrole, il n'avait pas trouvé de diamant, il n'avait pas trouvé d'or. Mais Dieu l'avait fait prospérer, Dieu l'avait béni. Plus tard, d'ailleurs, c'est un commentaire que ses serviteurs lui font. Le Seigneur t'a béni. En cheptel, en argent, en or, partout. La main de Dieu était sur cet homme. Et l'autre, lui, il en bénéficiait. Il avait juste à ramasser. Sois béni, mon frère, je suis ta bénédiction. Donc Lot, il était dans une position ultra confortable. C'était le neveu du roi. C'est facile. Il avait toutes les entrées auprès du roi, Abraham. Il profitait de tout ce qu'Abraham avait. Il avait une destinée en or. Il avait tout. Mais il va se passer un événement. Un premier événement qui va être dur et dans lequel il va y avoir des réactions. Il va y avoir des décisions. Et là, Lot va être éprouvé. Et nous allons voir comment il va réagir. Ça, c'est une leçon pour nous. C'est une leçon. Donc, leurs biens sont considérables. Verset 7, il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. » Sépare-toi donc de moi, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche.
Guhabintonganya ku murongo rwagati yabungere ba Aburahamu nabungere ba Lot kandi ico gihe abanyakanani n'abaferizi nibo baba muri ico gihugu Aburahamu abarira Lot ati ndakwinginze hoye kuba intonganya hagati yanje nawe no hagati yabungere banje nabawe kuko tuvukana erega igihugu cyose kiri imbere yawe ndakwinginze ngo duhane nta ni wahitamwo kuja ibumoso nanje ndaje buryo ni waje buryo ndaje ibumoso.
Là il y a un verbe qui dit c'est par toi. Là, Lot et Abraham ont un petit problème. Non pas de relation entre eux, mais de gens qui travaillent pour eux. Et Abraham est très sage. On voit le cœur d'Abraham. Il est béni et Dieu lui a dit « Tu seras une source de bénédiction. » Et le cœur d'Abraham, ce n'était pas de dire à Lot, écoute mon petit Lot. Toi, tu es le gamin pour moi. Tu sais, tous tes brebis, là, tes machins, là. Souviens-toi, c'est grâce à moi que tu les as
eus.
Tu as suivi ma bénédiction. Abraham n'était pas fou, il voyait très bien ce qui se passait. Mais Abraham était d'un cœur humble. Nous avons vu, il a fait des erreurs. Mais il avait un bon cœur. C'est ce qui l'a sauvé. Dieu ne regardera jamais à tes erreurs. Si tu as un cœur humble et que tu sais vraiment reconnaître tes erreurs, et que tu sais vraiment dire, vraiment, ça c'est mal ce que j'ai fait. Tu ne t'excuses pas, tu ne demandes pas pardon, mais tu reconnais sincèrement et tu te repens sincèrement. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'Abraham lui donne le choix. Pourtant, Abraham, c'est le maître. Entre guillemets, c'est lui, le boss. C'est pas Lot qui suivait Abraham. Si, c'est Lot qui suivait Abraham. Ce n'est pas Abraham qui suivait Lot. C'est pas Lot qui avait dit à Abraham, tu sais mon oncle, le Seigneur m'a parlé cette nuit. Il faut qu'on sorte de cette ville-là. C'est une ville d'idolâtre, ça suffit maintenant. Non, c'était Abraham qui avait reçu la révélation. Dieu avait parlé à Abraham et Abraham a fait bénéficier de sa bénédiction à Lot. Donc Abraham était largement en position de force pour dire à Lot, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça et tu te tais. Il aurait pu le faire. Mais Abraham n'était pas comme ça. Abraham était quelqu'un de bonne relation. Il a dit à Lot, on ne va pas se disputer pour un terrain. Moi, le Seigneur a dit qu'il allait me diriger.
Je
n'ai pas de problème. Maintenant, je vois qu'on ne peut plus être complètement ensemble. Vas-y, tu vas à droite, je vais à gauche, tu vas à gauche, je vais à droite, etc. Et là, on va voir deux cœurs différents par rapport à une situation identique. Le cœur de celui qui veut suivre Dieu est le cœur de celui qui voit pas loin, qui a une certaine foi en Dieu, parce que Lot avait foi en Dieu. Lot avait, je dirais, un certain désir de Dieu. Lot n'était pas un païen, dans le sens où ce n'était pas quelqu'un qui était un incrédule ou qui adorait des idoles. Par contre, nous allons voir qu'il n'a pas voulu aller loin avec Dieu et il voyait courte vue. Et là, devant une même circonstance, on a deux personnes qui réagissent d'une façon différente. Regardons ensemble. Ça, c'est une très grande leçon pour les décisions. Donc, Abraham lui dit, écoute, sépare-toi donc. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme un pays de délices, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Mais les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs devant l'Éternel. Ah ! Donc ici, on voit une décision qui est prise, un choix qui est fait. Rappelez-vous, les plus grands choix de votre vie vont déterminer là où vous arrivez dans votre destinée divine. Votre destinée divine, ce que vous allez accomplir dans le plan de Dieu dans votre vie, sera déterminé par les plus grands choix que vous allez faire dans votre vie. Ici, l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit quelque chose qui lui plaît avec les yeux. Par contre, il y a un problème. C'est que là où il s'installe, ce sont des gens qui sont en abomination devant le Seigneur. Le choix qu'il fait dans le naturel est le meilleur choix parce qu'il voit les plaines du Jourdain. Il se dit, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'animaux. Donc il faut beaucoup de pâturage. Il me faut beaucoup d'eau. Donc son choix se porte sur le naturel. Lot était ce qu'on appelle un opportuniste. Être un opportuniste, c'est quoi ? C'est être placé devant plusieurs choix possibles. Et le choix que tu vas faire sera uniquement motivé par ta chair pour la courte durée, pour satisfaire la chair maintenant. Parce que la chair veut maintenant. Les désirs de la chair, c'est tout de suite. La chair ne réfléchit jamais au futur. La chair veut se satisfaire immédiatement, tout de suite. Et c'est exactement ce que Lot va faire. Lot n'avait pas la perspective qu'il était un étranger et voyageur sur la terre. Lot, sa seule perspective, c'était quoi? J'ai des bestiaux. Il me faut de l'eau, des pâturages. Donc je veux de bonnes circonstances. Mais il avait oublié aussi une chose. L'influence de l'entourage. L'influence de l'entourage. Et Lot, lui, il veut satisfaire tout de suite sa chair. Il n'avait pas compris que sa prospérité était la conséquence de la bénédiction qu'il y avait sur Abraham. Parce qu'ils étaient devenus très riches. Et pourtant, ils n'étaient pas dans le meilleur endroit du pays de Canaan. Si vous regardez le territoire d'Israël, le meilleur endroit, c'était toute la plaine du Jourdain. Ils n'étaient pas très loin, mais ils n'étaient pas dedans. Abraham vivait sous des tentes. Et pourtant, Dieu l'avait fait prospérer. Dieu l'avait béni dans tous les temps par lesquels il était passé. Parce que quand Dieu bénit et quand Dieu place quelque part quelqu'un, même si ce sont des circonstances difficiles pour un temps, tôt ou tard, la bénédiction de Dieu va sortir. Tôt ou tard, tu verras les conséquences de ta bonne décision. Et là, Lot prend la mauvaise décision, comme nous allons le voir. Mais d'abord, on va jeter un petit coup d'œil à Abraham. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, et vers l'est et vers l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus compter comme on ne peut compter la poussière de la terre. » Verset 17. « Lève-toi, parcours le pays de long en large, car je te le donnerai. » Je ne vais pas me concentrer sur la promesse d'Abraham. Regardez simplement le verset 18. « Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. » Verset 18. Rappelez-vous, Lot, il voit à court terme. Il est l'image du chrétien charnel qui va prendre ses décisions à court terme. Et il va là où il y a de l'eau, là où tout semble bien. Sauf le principal. L'entourage. Abraham, lui, avec la même décision, devant la même décision, d'accord ? Ils ont à faire face aux mêmes circonstances. Il y en a un qui réagit selon la chair. Et on verra, parce qu'on ne pourra pas tout finir aujourd'hui, mais on verra dans un autre sermon les conséquences du choix de
l'autre.
Et Abraham, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à obéir au Seigneur, à vivre sous des tentes. Et la Bible nous dit qu'il va dresser ses tentes, verset 18. Regardez bien le verset 18. Et habiter aux chênes de Mamré. Vous voyez, Lot, il a été habité dans les villes, là où il y avait vraiment une adversité contre Dieu. Terrible. Abraham, lui, continue d'obéir au Seigneur. Il dresse ses tentes et vient habiter aux chênes de Mamré. À côté d'Hébron. Mamré, ça veut dire vigueur et prospérité. Vigueur et prospérité. Hébron, ça veut dire communion. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Qu'est-ce que ça nous donne comme image ici? Abraham, lui, il avait compris que s'il voulait réussir dans les promesses de Dieu, il devait s'approcher de Dieu. Qui ne devait pas, selon sa prospérité, s'éloigner de Dieu. Mais
au
contraire. Abraham était prospère, tout allait très bien. Il se sépare d'avec Lot. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Dieu. Il adore Dieu. Il se met dans un endroit où il y a communion, Hébron.
Chaîne
de Mamré. Vigueur, force, prospérité, épanouissement. Donc Abraham, dans sa mentalité, c'était plutôt de chercher qui ? La source de toute chose. Non pas la bénédiction. Lot a mis les yeux sur la bénédiction. Et sa décision a été motivée selon la bénédiction, ce qu'il avait comme vue sur la bénédiction. Abraham, lui, il était béni. Il remerciait son Seigneur, mais il n'avait pas les yeux sur sa bénédiction. Il avait les yeux sur celui qui est invisible. Et dans ces deux destinées, nous verrons l'un qui était loin d'être parfait, mais qui a réussi, et l'autre qui va vivre catastrophe sur catastrophe dans sa vie. Devant les mêmes circonstances, deux personnages et des réactions différentes selon les cœurs. Nous allons prier ensemble et nous continuerons une prochaine fois sur la suite de Lot.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.